Je suis ce que je suis, né à un moment donné sur cette planète, de parents humains, pleins de qualités et avec quelques défauts aussi. Je suis dans mon être, dans ma relation à l'autre, dans ma relation à Dieu. Et Dieu est immuable, éternel, compatissant, riche en bonté, juste, saint. Dieu est. Et moi, toi, nous sommes bienvenus ce matin, là où nous en sommes dans notre chemin, quelle que soit notre foi, quel que soit notre état, quelle que soit notre relation à lui. Tu as choisi ce matin de passer un moment avec lui, de tourner le regard vers lui. Sois-en béni. Nous voulons prier. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, merci. Merci pour la liberté de pouvoir nous réunir ce matin. Merci de pouvoir regarder vers toi ce matin. Merci de pouvoir partager ensemble ces moments ce matin. Merci pour ta parole, la Bible qui nous ancre en toi tous les jours. Merci pour la communauté autour de nous, les amis, les sœurs et frères de notre foi. Merci que tu bénisses ces instants. Amen. Nous voulons tourner vers lui en bénissant le Seigneur au moyen du chant. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, tu es notre joie. Béni soit le Seigneur pour sa fidélité.
Bonjour à tous. Nous sommes tant peu nombreux, mais vous êtes là. Merci. Beaucoup de personnes de notre communauté sont au camp de la Drôme. Donc je pense qu'ils passent aussi un bon moment ce matin. Je ne suis pas une grande théologienne. Je ne prétends pas non plus avoir un canal de communication directe pour vous transmettre la parole de Dieu. Je suis juste quelqu'un qui croit en un Dieu qui m'accompagne dans ma vie, m'aide à surnager dans les soucis ambiants, qui m'aide à me tenir debout. Si je parle, si j'ose le faire, c'est qu'avec Christophe Colot, commentateur de Calvin, je crois que la parole de Dieu se glisse entre la parole dite et la parole telle que je la reçois. Je crois que Dieu est présent dans l'Église et qu'il vient habiter les paroles et les gestes humains. J'ajouterai que tout cela est possible à cause du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui pour vous et pour moi. Aujourd'hui, nous continuons notre saga dans l'histoire d'Abraham. notre thème de culte de l'été avec la paroisse protestante de Meyrin. Nous arrivons aujourd'hui au chapitre 16 et 17 en ayant sauté les chapitres 14 et 15. Je voudrais juste vous retracer les chapitres 12 à 15 pour mettre un peu en évidence la relation qui s'est établie petit à petit entre Dieu et Abraham. Au chapitre 12, c'est la quatrième fois que vous l'entendez, Dieu appelle Abraham à quitter son pays, sa famille, sa culture, sa vision du monde et de Dieu, comme nous l'a rappelé Sylvain dimanche dernier, pour aller dans le pays qu'il lui montrera. Abraham part avec sa femme, son neveu Lot, ses richesses et toutes les personnes qui travaillent avec lui. Il arrive dans le pays de Canaan où il s'installe par étapes. Et à chaque étape, et aussi à deux fois quand Dieu lui parle, il construit un autel et il invoque le Seigneur par son nom. Abraham parle avec Dieu, il lui parle assez librement. On peut voir qu'il y a un attachement qui se fait entre lui et Dieu petit à petit. C'est une vraie relation qui s'établit entre Dieu et lui. Maintenant, le chapitre 16. Saraï, femme d'Abram, a une servante égyptienne, Agar. Elle est égyptienne parce qu'elle vient d'Égypte, pays où Abram et Saraï se sont réfugiés à cause d'une famine. L'histoire du peuple d'Israël a été faite déjà avant. Saraï est triste et amère. Elle n'a pas d'enfant. Elle s'en ouvre à Abram. Je n'ai pas d'enfant par la faute de Dieu. Couche avec ma servante. Peut-être pourrais-je avoir un fils par elle. C'est une très surprenante proposition pour nous qui sommes du XXIe siècle, mais il faut savoir que dans le droit mésopotamien, une femme stérile avait le droit de donner sa servante à son mari et ensuite elle adoptait l'enfant de celle-ci. C'était une loi qui protégeait la femme stérile de la répudiation ou de l'indigence si elle était veuve sans enfant. Bon, Abram, sans beaucoup discuter, accepte. Saraï prend sa servante, la donne à son mari couche avec elle, elle devient enceinte. Tout va bien. Non, parce que la servante, tout d'un coup, regarde sa maîtresse de haut. Elle lui manque de respect et Saraï n'aime pas ça du tout. Ulcérée, elle en parle avec Abram. Parle d'une injure qui lui est faite, parle de jugement entre elle et son mari. Abram fait quelque chose. Abram lui répond, c'est ta servante, elle est en ton pouvoir, fais ce qu'il te plaît. Saraï maltraite tellement Agar que celle-ci s'enfuit dans le désert. Bon. Arrivé là, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette histoire, ce que vous pensez des personnages de cette histoire, vos réactions quand vous entendez ça. Qu'est-ce qui est devenu actuel ? De faire faire des enfants par les autres, oui, c'est vrai. Oui, les personnages sont très humains. C'est vrai. Ils nous ressemblent beaucoup, je trouve. Et les trois, hein. Il n'y a pas un qui rattrape l'autre. Hein. Ah, tu crois qu'on est meilleur qu'eux maintenant? Philippe a dit, pour ceux qui nous regardent de loin, Philippe a dit, ils n'ont pas eu encore Jésus comme exemple. À la servante, ah non, ils n'ont pas demandé la vie à la servante, ça non. Elle est un peu un objet qu'on se passe comme ça. Hein. Là, j'ai pris la version français courant, la nouvelle version français courant, on parle de servante, mais dans d'autres versions, on parle d'esclave. Et puis, je trouve aussi qu'Abraham est assez passif. Hein? Voilà, c'est ta servante, fais ce que tu veux. Tu veux que je couche avec, je couche avec. Voilà. J'ai l'impression qu'Abraham n'aime pas tellement les conflits. Voilà, il aime la tranquillité. Il ne s'est pas beaucoup engagé ni pour protéger la servante, ni pour protéger Sarai, pour remettre en place la servante. Il aurait pu lui dire, ben non, maintenant tu respectes, voilà. Ouais. Oui, c'est juste, la maternité opère un changement d'attitude. Oui, c'est juste. Ouais. Donc, on est d'accord, c'est une humanité qui est très, très humaine, et ce n'est pas très glorieux. Le mépris, le rejet, la maltraitance, la passivité, ce n'est pas très glorieux. Mais Dieu n'abandonne pas Agar. L'ange du Seigneur la trouve près d'une source. Et Eric va nous dire ce que cet ange lui a dit.
L'ange du Seigneur lui demanda, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ?» Elle répondit, « Je me suis enfuie de chez ma maîtresse. »« Retourne auprès de ta maîtresse, reprit l'ange, et obéis à ses ordres. Le Seigneur te donnera des descendants en si grand nombre qu'on ne pourra pas les compter. Tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Ismaël, car le Seigneur a entendu ton cri de détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il combattra contre tous et tous combattront contre lui. Il vivra seul, à l'écart de tous ses semblables. » Agar mit au monde un fils que son père Abraham nomma Ismaël. Abraham avait 86 ans lorsque Agar lui donna ce fils.
C'est l'ange du Seigneur ou l'envoyé du Seigneur qui s'approche d'Agar. Pour, quand on parle de l'intervention de Dieu auprès d'Abraham, c'est toujours le Seigneur lui-même, en personne, qui apparaît et qui vient parler à Abraham. Le mot Seigneur qui est utilisé ici, et c'est aussi celui qui est utilisé dans tout l'Ancien Testament, c'est le mot Yahvé, que les Juifs ne prononcent pas. Car Dieu est si grand, si différent de nous, intouchable. Ils n'osent pas, par le respect, ils n'osent pas prononcer le nom de Dieu. À la place, les Juifs disent Adonai. Et j'aime beaucoup ce respect de Dieu. L'envoyé s'adresse à Agar par son prénom et sa place dans la maisonnée d'Abraham. Il la connaît bien. Elle, pour qui les hommes, est-ce que les gens savaient qu'elle était une esclave, une étrangère, qui n'existe presque pas, qui n'a pas de valeur à leurs yeux, mais aux yeux de Dieu, personne n'est insignifiant. Chacun a de la valeur. Chacun est digne de ses soins et de ses attentions. C'est Dieu, par son envoyé, qui prend l'initiative de la rencontre, comme avec Adam, après qu'il eut mangé le fruit défendu, comme avec Adam et Ève. Dieu ne rompt jamais le contact avec l'humain, toujours il cherche ce contact. Et comme à Adam, il lui pose une question, d'où viens-tu, où vas-tu ? On dit que Dieu sait tout. Alors pourquoi nous pose-t-il des questions ? Je pense que c'est parce qu'à ses yeux, nous ne sommes pas des rien du tout. Nous ne sommes pas des objets, il n'est pas comme un marionnettiste qui nous manipule. Il est quelqu'un qui aime avoir un contact avec nous, qui aime dialoguer avec nous. C'est un cadeau, un plaisir que nous lui faisons, quand nous le faisons. L'envoyé du Seigneur remet Agar à l'ordre, mais pas seulement. Il lui fait une promesse, et je pense que vous avez remarqué, elle ressemble beaucoup à celle faite à Abraham. Des descendants en si grand nombre qu'on ne pourra pas les compter. Il lui annonce aussi un fils qu'elle devra nommer Ismaël. Ismaël a une terminaison en elle pour dire Dieu, comme Samuel, Dieu exauce, Raphaël, Dieu guérit, Israël, lutte avec Dieu. C'est, je pense, une façon de dire que Ismaël a le même Dieu qu'Isaac, qu'Abraham. C'est le nom que Dieu a voulu qu'il reçoive. Il lui annonce une descendance nombreuse, mais aussi les conflits qui durent encore aujourd'hui. Agar met au monde un fils et son père, Abraham, le nomma Ismaël. Le texte le spécifie bien, Abraham est le père d'Ismaël. Abraham aimera ce fils et se fera du souci pour lui. Après la naissance d'Isaac, à la demande de Sarai, Abraham, la mort dans l'âme, va renvoyer Ismaël et sa mère. Mais Ismaël et Isaac seront ensemble pour ensevelir Abraham à sa mort. Nous chantons, nous écoutons un chant qui parle de la fidélité de Dieu et combien nous sommes bien en sa présence.
Quand Abraham eut 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui déclara, Je suis le Dieu souverain. Vis toujours en ma présence et sois intègre. Je vais établir mon alliance entre toi et moi et te donner un très grand nombre de descendants. Abraham se jeta face contre terre et Dieu reprit : Voici à quoi je m'engage envers toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. On ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham, car je ferai de toi l'ancêtre d'une multitude de peuples. Je t'accorderai un si grand nombre de descendants qu'ils constitueront des peuples entiers. Il y aura même des rois dans ta postérité. Je maintiendrai mon alliance avec toi, puis après toi, avec tes descendants, de génération en génération pour toujours. Ainsi, je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. À toi et à tes descendants, je donnerai le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours, et je serai leur Dieu. Dieu dit encore à Abraham, « Toi et tes descendants, de génération en génération, vous respecterez mon alliance. Voici l'obligation que vous respecterez, toi et tes descendants. Quiconque est parmi vous de sexe masculin sera circoncis. La circoncision de votre chair sera le signe de l'alliance établie entre vous et moi, de génération en génération. Tous vos garçons seront circoncis quand ils auront 8 jours. Il en sera de même pour les esclaves nés chez toi ou pour les esclaves étrangers que tu as achetés et qui ne sont pas membres de ton clan. » Ensuite, Dieu dit à Abraham, « Ne donne plus à ta femme le nom de Saraï, car désormais son nom est Sarah. Je vais la bénir et te donner par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra l'ancêtre de peuples entiers. Il y aura des rois de divers pays dans sa descendance. » Abraham se jeta face contre terre et il rit, car il se disait, « Comment aurais-je un enfant, moi qui ai 100 ans, et comment Sarah, qui en a 90, deviendrait-elle mère ?» Il dit alors à Dieu, « Accorde-moi seulement qu'Ismaël vive devant toi. » Dieu dit, « En fait, ta femme, Sarah, te donnera un fils que tu appelleras Isaac. Je maintiendrai mon alliance avec lui et avec ses descendants après lui. Ce sera une alliance pour toujours. De plus, j'ai entendu ta demande en faveur d'Israël. Je le bénirai et je le rendrai fécond. Je lui donnerai un très grand nombre de descendants. Il sera le père de 12 chefs et l'ancêtre d'un grand peuple. Et mon alliance, je la conclurai avec Isaac, le fils que Sarah te donnera à cette époque l'an prochain. » Quand Dieu eut fini de parler avec Abraham, il s'éloigna. Abraham prit alors son fils Ismaël, ainsi que tous ses esclaves, ceux nés chez lui et ceux qu'il avait achetés, c'est-à-dire tous les hommes de sa maison. Il les circoncit le jour même, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 99 ans et son fils Ismaël 13 quand ils furent circoncis.
Abraham, je dis Abraham parce que pour moi c'est plus naturel. Eric, il a dit juste, parce que « on », c'est un son qui n'existe pas en hébreu. Donc c'est juste, il faut dire « Abraham », « Abraham » et « Abraham ». Il faut aspirer le H. Et pour moi, c'est tellement peu naturel que je crois qu'avec le stress de parler, j'aime mieux faire à la française. Abraham et Sarah sont des êtres bien humains, comme on l'a vu, avec des comportements pas toujours glorieux. Mais c'est avec eux que Dieu désire conclure en alliance, une alliance. Comme quoi Dieu ne désespère jamais de l'être humain. Et comme quoi aussi, je pense, Dieu n'a pas le même regard sur nous que nous sur nous-mêmes. Par ses promesses et ses alliances, et ses dialogues avec de nombreux êtres humains qui nous sont rapportés dans la Bible, Dieu nous dit qui il est. Se faire connaître à travers des êtres humains qui parlent de lui, c'est le chemin qu'il a choisi pour se faire connaître à nous aussi, jusqu'à nous aussi. Si tous ces êtres humains n'avaient pas parlé et écrit ce qu'ils ont vécu avec Dieu et compris de Dieu, peut-être en serions-nous encore à voir Dieu dans les astres, dans le tonnerre, et à croire que nous sommes juste des esclaves pour son bon plaisir, comme nous l'a décrit Sylvain dimanche dernier. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes là, c'est à nous de continuer de transmettre ce que nous comprenons de Dieu. Par ses promesses et ses alliances, je pense aussi que Dieu aimerait nous rassurer. Je ne suis pas un Dieu qui juge, qui risque de vous détruire. Je l'ai promis à Noé, et chaque fois que je vois l'arc-en-ciel, je m'en souviens. Je suis un Dieu qui veut vivre avec vous et vous accompagner sur votre chemin dans les bons et les mauvais jours. Souvent même, il rassure explicitement. Dans nos deux textes, non, c'est pas vrai, c'est pas dans nos deux textes. Au chapitre 15, il commence à s'adresser à Abraham en disant « N'aie pas peur, je suis ton bouclier ». Plus loin dans ce chapitre, il lui dira aussi « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, donc je ne suis pas un complet inconnu pour toi ». Et dans ce chapitre, il lui dit « Je suis le Dieu souverain, celui qui est, qui était, qui sera de tout temps, celui qui tient l'histoire dans ses mains, celui qui est un rocher, à qui ne se laisse pas manipuler, qui est solide, en qui je peux faire toute confiance. » Abraham a maintenant 99 ans. 13 ans se sont écoulés depuis la naissance d'Ismaël. 13 ans pendant lesquels rien ne s'est produit, ni renouvellement des promesses ou de l'alliance de Genèse 15, ni le début d'un accomplissement. C'est long, c'est très très long. Mais à 100 ans, Isaac naît. C'est la preuve que Dieu, même s'il ne se passe rien, Dieu n'oublie pas. Le Seigneur apparaît à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu souverain, marche en ma présence et sois intègre. » Intègre ou irréprochable, ça dépend des traductions. Ça peut sonner comme une condition. Moi, j'aime pas les conditions, c'est vrai, parce que quand il y a une condition, on a toujours la crainte de ne pas avoir rempli les conditions et donc de perdre la faveur de Dieu. Mais je ne crois pas que ce soit une condition, parce que d'abord, on l'a vu, Abraham n'a pas été irréprochable, et dans les chapitres d'avant non plus. Il ne l'a été ni avant, ni après que Dieu lui ait parlé d'alliance. L'alliance ne l'a pas transformé en quelqu'un d'irréprochable. Donc, il me semble que pour Dieu, être irréprochable n'est pas une condition pour qu'il conclut son alliance avec Abraham. Je crois plutôt qu'il faudrait dire « Tu peux marcher dans ma présence et être irréprochable parce que je conclue une alliance avec toi. Le fait que je conclue une alliance avec toi te dit que je suis de ton côté, que je ne suis pas contre toi, que tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi. Tu peux marcher en ma présence, c'est-à-dire me laisser voir ce que tu fais, me parler, être tel que tu es, sans avoir peur que je te rejette, parce que je fais alliance avec toi. » Et de la même manière, non, irréprochable, on va en parler, parce que je me suis quand même posé des questions. Pour nous, irréprochable, c'est être sans faute, qu'on n'ait rien à nous reprocher. Mais à nos yeux, Abraham n'est pas irréprochable, et pour Dieu. Peut-être que pour Dieu, irréprochable a une autre signification. Et si ce n'était pas une question de faute? Dans Genèse 15, au verset 6, il est dit que Abraham eut confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Et au chapitre 22, à travers tes descendants, je bénirai tous les peuples de la terre parce que tu as écouté ma voix. Alors je me dis que peut-être être irréprochable ne serait pas être sans faute, mais être à son écoute et faire confiance. Le chapitre 17 est le deuxième où il est question d'alliance. Dans cette alliance, c'est Dieu qui s'engage. Je vais faire ça, ça, ça. À Abraham, il est demandé de respecter l'alliance, c'est-à-dire de faire confiance à Dieu qui accomplira ce qu'il a dit. Dieu s'engage parce qu'il veut être leur Dieu en leur donnant tout ce dont ils ont besoin, une descendance, un pays et même lui-même. Il ne s'agit pas d'une descendance selon l'arbre généalogique d'Abraham ou qui ne se concernerait qu'Israël. Il s'agit d'une descendance d'une multitude de peuples dont nous sommes. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et pour le souligner, Abraham change de nom. D'Abraham, père élevé, il devient Abraham, père d'une multitude. C'est une alliance perpétuelle. Il y a une obligation, respecter l'alliance et la respecter en se faisant circoncire. Je ne sais pas ce qu'en pensent ces messieurs. Ce n'est pas quelque chose qui est anodin, ce n'est pas quelque chose qui est sans douleur. Ça touche à un organe intime. C'est la marque. Le Seigneur le veut comme une marque dans la chair de l'alliance, de son alliance avec Abraham et sa descendance. L'homme en gardera une trace indélébile, comme l'alliance est perpétuelle, la circoncision l'est aussi. La circoncision est un signe, comme l'arc-en-ciel l'est pour Dieu. J'ai relu l'histoire de Noé, de l'alliance de Dieu avec Noé. Et après le déluge, Dieu fait alliance avec Noé et il dit « Quand l'arc-en-ciel apparaîtra, je penserai à l'alliance passée entre moi, vous et toutes les espèces de la terre. Il n'y aura plus jamais de déluge pour anéantir la terre. Dieu voit l'arc-en-ciel et il se souvient de son alliance. » C'est vraiment dit comme ça que c'est Dieu qui, en voyant l'arc-en-ciel, se souvient de son alliance. Nous, on pense que c'est pour nous, mais il semble que Dieu l'a fait pour lui-même. De la même manière, quand l'homme vit et voit la circoncision, il se souvient que Dieu n'est pas un Dieu dont il faut avoir peur, mais un Dieu qui fait alliance, et il se souvient qu'il appartient à la descendance d'Abraham, à travers qui tous les peuples de la terre sont bénis, parce qu'il a écouté sa voix et fait confiance. Saraï est partie intégrante de cette alliance. Pour une fois, la femme n'est pas mise de côté. Elle change aussi de nom, de Saraï, ma princesse, à Sarah, princesse. C'est elle qui donnera un fils, il s'appellera Isaac. Elle sera aussi l'ancêtre de peuple entier. Abraham rit. Est-ce que vous saviez que Abraham avait ri? On se souvient que Sarah a ri, mais Abraham rit. Qui savait que Abraham avait ri? Ah ben, Myriam. Voilà. Dans le chapitre 18, Sarah a ri. Mais là, c'est quand même dit que Abraham a ri et il a une raison pourquoi il a ri. Parce qu'il a douté à cause de son grand âge. Il a douté. mais l'histoire n'a gardé de lui que l'image d'un homme qui n'a pas douté. Toutes les similitudes, jusqu'au rire, entre la promesse faite à Abraham et celle faite à Sarah, montrent qu'aux yeux de Dieu, Sarah joue le même rôle, est aussi importante qu'Abraham pour commencer la descendance promise. L'alliance, c'est aussi pour Sarah. Il a douté, mais on peut aussi le comprendre parce qu'il a un fils qu'il aime et ce fils lui suffit. D'ailleurs, avant le chapitre 17, jamais Dieu n'avait spécifié que le fils de la descendance naîtrait de Sarah. Donc, il pouvait penser que ça pouvait être celui qui était né d'Agar. Dieu est clair, l'alliance est pour la descendance d'Abraham via Isaac, parce qu'Isaac est le fils du don miraculeux de Dieu. L'alliance n'est pas pour la descendance en elle-même, elle est pour la descendance, fruit de l'intervention de Dieu et de la confiance de l'homme en la présence de Dieu, ce qu'Ismaël n'est pas. Ismaël est né d'une femme qui n'était pas stérile, il n'y a pas eu d'intervention de Dieu, il n'y a pas eu besoin de faire confiance. Ainsi, nous, qui sommes au XXe siècle, si nous avons besoin d'être rassurés, nous avons ici la preuve que nous sommes déclarés justes, non à cause de notre bon comportement ou de nos bonnes intentions, mais par la foi, la confiance que nous faisons à Dieu. C'est le canal de la foi qui nous rend justes. Quand Dieu le quitte, Abraham se circoncit avec Ismaël qui a 13 ans. Et tous les hommes de sa maisonnée, parce qu'il est d'accord avec l'obligation imposée pour Dieu. Cette alliance, il en a envie, il y tient. Cet acte découlait naturellement de la relation proche qu'il avait avec Dieu, une relation réelle et précieuse pour lui. Nous chantons la présence de Dieu. Mais vous pouvez rester assis pour réfléchir encore dans votre tête si vous en avez envie.
allons célébrer la scène parce que la scène est un signe d'alliance, de la nouvelle alliance que Dieu a conclue avec nous les hommes en Jésus-Christ. Elle découle de l'alliance faite à Abraham. Le chapitre des Romains 4 l'explique bien. C'est un chapitre riche, mais on ne va pas le lire en entier. Je vais juste vous lire des extraits. Dieu a promis à Abraham et à ses descendants le monde en héritage. Cette promesse a été faite non parce qu'Abraham avait obéi à la loi. Il y a eu, après l'alliance avec Abraham, il y a eu l'alliance avec Moïse et la loi, mais parce que Dieu l'avait reconnu juste par la foi. Ainsi, la promesse a été faite en raison de la foi, afin que ce soit un don gratuit de Dieu et qu'elle soit confirmée pour tous les descendants d'Abraham. Abraham est notre père à tous. Comme le déclare l'Écriture, « J'ai fait de toi l'ancêtre d'une multitude de peuples. » Il est notre père devant Dieu en qui il a mis sa confiance, le Dieu qui rend la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps mourant et à sa femme qui était stérile. Il ne perdit pas confiance et il ne douta pas de la promesse de Dieu. Voilà pourquoi il est dit d'Abraham que, à cause de sa foi, Dieu l'a considéré comme juste. Mais ces mots n'ont pas été écrits pour lui seul, ils ont été écrits pour nous aussi, qui devons être considérés comme justes, puisque nous mettons notre confiance en Dieu, qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur. Il a été livré à la mort à cause de nos fautes, et Dieu l'a ressuscité pour nous rendre justes. L'alliance que Dieu a conclue en Jésus-Christ avec la multitude de peuples dont nous sommes, bon, là c'est fini, Romains 4, c'est mon commentaire. L'alliance que Dieu a conclue en Jésus-Christ avec la multitude de peuples dont nous sommes est très différente de la première. Là, c'est Dieu qui souffre. Dans la circoncision, c'était l'homme. Là, c'est Dieu, Jésus, qui souffre sur la croix. Et cette alliance va plus loin que la première. Elle nous accorde le pardon à cause de la mort de Jésus et la vie, car Dieu l'a ressuscité. Et le pays promis, c'est le royaume de Dieu. Et tout cela, nous savons que ça a été accompli parce que Dieu nous aime. Nous qui croyons, Dieu nous considère comme justes. Ce n'est pas par notre comportement ni notre obéissance, c'est le don gratuit de Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est être considéré comme juste.
On va chanter « Dieu ta fidélité ».
Thank you. Nous lisons dans Marc 14, du verset 22 à 25. Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples, et il leur dit : Prenez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. Jésus leur dit : Ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le règne de Dieu. Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers.
La scène me lie au passé. Elle m'invite à me souvenir que c'est Dieu qui nous offre quelque chose. Il le fait à travers du pain, signe de sa générosité. L'affirmation « donnée pour vous » me relie au présent. C'est le signe de ce que le Christ a fait pour moi. Et puis, il y a la coupe, le vin de fête qui me lie au futur. C'est l'espérance contre tout ce qui sape la dignité humaine. Et Jésus, en annonçant qu'il ne la vivrait plus, nous annonce le royaume.
Prions. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, nous voulons nous placer devant toi, reconnaître la gratuité et la perfection de ton salut. Merci pour la croix, merci pour la résurrection, merci pour sa réalité dans nos vies. Par le nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous avons préparé le pain et le vin. Mais c'est Dieu qui nous invite. C'est un peu différent des deux dernières fois. Nous n'avions pas de godet à fondant, donc le pain est dessous et le vin dessus. Au milieu, il y a du jus de raisin pour ceux qui le désireraient. Nous allons passer dans les rangs. Et pour que ce soit un geste communautaire, je vous demanderai d'attendre que la distribution soit terminée avant de prendre le pain et le vin. On n'est pas tout seul dans notre coin, on est une famille. Seigneur, nous sommes une famille. Nous sommes une famille avec tous ceux qui croient, qui te font confiance de par la terre, de par le monde. Et ensemble, en communion avec eux, nous voulons dire la prière que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Les annonces, Zena, Sylvain.
Il n'y en a pas d'autres que. Je crois qu'il n'y a pas d'autres annonces que le culte de dimanche prochain. Il n'y a pas d'activité prévue.
Tu te souviens avec qui c'est le culte de dimanche prochain?
Ouh.
Nicolas Jeunecamp? Oh, je ne sais plus. Il faut regarder le papillon plus. Des cultes de l'été. L'offrande, comme d'habitude, dans la petite caissette, par Twint ou par le CCP. J'ai juste une nouvelle à vous annoncer. Claude Parnigoni a perdu sa maman mardi après-midi. Donc nous pouvons penser à eux, à lui et à sa famille, à Francine et à toute sa famille. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Dieu, source de paix, a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des moutons grâce à son sang qui garantit l'alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous fassiez sa volonté. Qu'il réalise en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour toujours. Amen. C'est tiré d'Hébreux 13. Que la paix, la joie, l'amour de Dieu vous accompagnent tous les jours. Allez en paix. Bon dimanche.